Générique.
Bedir Bouguedir est né en 1944 à Amman Leif, en Tunisie. Il est réalisateur, scénariste et journaliste. Son premier long-métrage de fiction, Alpha Wind, l'enfant des terrasses, reste le film tunisien le plus connu dans le monde. Il est journaliste à la revue Jeune Afrique depuis 1971. Farid Bouguedir est professeur de cinéma à l'université de Tunis. Il se fait d'abord connaître comme critique cinématographique par ses publications sur l'histoire des cinémas africains et arabe. Il réalise 2 longs métrages documentaires présentés en sélection officielle au Festival de Cannes, La Caméra d'Afrique en 1983 et La Caméra arabe en 1987. Sa première œuvre de fiction, Alpha Wind, l'enfant des terrasses en 1990, est couronnée de plusieurs récompenses, dont le Tanis d'or aux journées cinématographiques de Carthage. Et en 1992, Farid Bouguedir est délégué général lors de la 14e session des journées cinématographiques de Carthage. Il est membre du jury officiel au Festival de Cannes en 91, en 97 à Berlin, en 99 à Venise, et il est président du Festival panafricain du cinéma et de la télévision Ouagadougou en 2001. Il est fils de Taoufik Bouguedir, un journaliste, dramaturge et homme de culture tunisien. Il a bien voulu nous répondre, nous l'écoutons. Alpha Wind, l'enfant des terrasses, un été à la goulette, le parfum de printemps. Il s'est passé quoi entre ces 3 films ? On va dire quelque part que c'est une grosse part de vous.
Disons que moi, comme réalisateur, j'ai jamais voulu faire carrière, entre guillemets. C'est-à-dire que je n'ai fait des films, bon, c'est peut-être un peu prétentieux à dire, mais alors, quand je pensais que c'était essentiel de faire ces films-là, que ces films devaient dire des vérités sur ma société, la société tunisienne, la société arabo-musulmane, qui n'était pas connue de l'extérieur. Et comme j'ai la chance de vivre en Tunisie, je vis à l'intérieur de ces sociétés, je me disais, moi, j'ai la capacité de montrer cela aussi bien à mes concitoyens qu'à l'extérieur. Surtout, j'ai fait des films quand ça accumuler un peu trop les clichés, les stéréotypes, les idées, les préjugés sur nos sociétés. Par exemple, quand j'ai fait Alpha Wind, il y avait la révolution iranienne 10 ans plus tôt, et il y avait cette vision de la femme arabe qui est toujours enfermée, voilée, battue, soumise et tout ça. Et moi, je dois avouer que dans la société tunisienne, depuis tout petit, je vivais plutôt le contraire. Il y avait un vrai pouvoir des femmes, une liberté des femmes aussi, liberté de parole, un vrai matriarcat qui était parfois sous les apparences de la soumission. Et donc, je me suis dit, moi, il faut que je montre ces vérités-là parce que j'ai la chance d'être dedans. Pareil pour un été à la goulette. Un été à la goulette, c'était au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, où je lisais dans les journaux qu'il y avait des gens qui s'entretuaient en ex-Yougoslavie parce que l'un était croate catholique, l'autre était serbe orthodoxe et le troisième était bosniaque musulman. Et moi, je passais mes vacances à la goulette où se mélangeait, mais vraiment de façon harmonieuse et bon, avec des petites querelles comme toujours, mais vraiment une coexistence entre les 3 religions du livre, comme on dit en islam, c'est-à-dire entre les juifs tunisiens, les catholiques siciliens et les arabes musulmans qui vivaient ensemble. Et pour ça que j'ai fait sous forme de comédie, puisque moi, mon tempérament va plutôt vers l'humour, un été à la goulette, qui, de nouveau, devait dire des vérités, et des vérités contre les clichés. Et celui-ci, Parfum de printemps, c'est quand même 5 ans après cette révolution du jasmin, comme on l'appelait en Tunisie, a donné naissance à ce qu'on a appelé plus tard le printemps arabe, puisque ça s'est répandu dans tous les pays de la région. C'est quand même quelque chose d'assez unique, cette révolution du jasmin, des gens qui sortent dans la rue sans qu'il y ait un parti politique derrière, ou un leader, ou un syndicat, et qui réclament le départ d'un despote et qui, à force de tenir la rue, obtiennent que ce despote s'en aille et fuit, comme ça a été le cas du général Ben Ali qui est parti en Arabie Saoudite. Et après, ça a donné de l'espoir aux autres peuples puisque, du coup, en Égypte, les Égyptiens se sont dit « Tiens, les Tunisiens, il suffit de sortir dans la rue et de sortir le mot « dégage » parce que le mot qui a été inventé à ce moment-là en Tunisie et qui a fait fortune, même chez les insoumis chinois qui aussi, sans comprendre le mot « dégage », disaient avec leur accent, j'imagine « dégage, dégage ». Donc ce printemps arabe qui ensuite a gagné, comme vous le savez, la Libye. Malheureusement, bon là, pour nous, la chute de Kadhafi, qui paraît-il aurait été mêlée aussi à des campagnes électorales et des choses comme ça. Là, malheureusement, M. Sarkozy, M. Cameron a envoyé un maximum d'armes là-bas pour faire tomber Kadhafi. Et nous, on en souffre encore, puisque maintenant, comme la Tunisie est le seul pays de tous ces régimes du printemps arabe qui n'est pas tombé dans le chaos, comme ça a été le cas plus tard en Libye, mais également en Syrie, où c'est allé jusqu'à la barbarie maintenant. La Tunisie est le petit pays de 11 millions d'habitants qui a réussi à faire un processus démocratique, malgré un bref passage des islamistes au pouvoir, et de faire une constitution qui assure l'égalité entre hommes et femmes, liberté fondamentale. Eh bien, c'est à cause de cela que la Tunisie est une cible maintenant des djihadistes, et qui a eu l'an dernier 3 attentats en Tunisie. Le premier au musée du Bardo, là où il y a la plus belle collection de mosaïques romaines au monde. Le deuxième à Sousse, quand les plages n'étaient pas encore sécurisées, puisque depuis elles ont été sécurisées. Tout le monde était naïf, comme le héros de mon film, on ne pensait pas que ça nous arriverait. Et ensuite, il y a eu Encore cette année, un attentat vraiment à la frontière libyenne. Malheureusement, ce sont les armes que M. Sarkozy et M. Cameron ont envoyées en pagaille, qui sont tombées entre les mains de différentes milices, parce que la Libye, contrairement à la Tunisie, n'avait pas eu le Bourguiba, donc ce n'était pas une nation, c'était vraiment des tribus. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont fait des attentats en Tunisie viennent de Libye avec des armes libyennes. Donc moi, je me suis dit, 5 ans après ce printemps arabe qui est parti de mon pays, la Tunisie, j'ai de nouveau ressenti le besoin, comme pour mes autres films, de dire des vérités. Qu'est-ce que c'est que ce printemps arabe, son déclenchement? Et puis comme mon tempérament va plutôt vers l'humour, je me suis dit, après beaucoup de films sérieux sur le sujet, dont un que j'aime beaucoup, fait par la fille de mon ami et collègue Nouri Bouzid, qui s'appelle « À peine j'ouvre les yeux » de Leïla Bouzid, qui traite aussi de la fin du régime de Ben Ali, sur le mode dramatique. Je me suis dit, bon, après beaucoup de films sérieux et dramatiques, moi, je vais faire une comédie sur la naissance du printemps arabe, un conte ironique et tendre qui va, je l'espère comme les films précédents, permettre aux spectateurs, aussi bien de chez moi qu'aux spectateurs extérieurs, de peut-être d'avoir un peu de distance vis-à-vis de cela, parce que je suis convaincu que l'humour, non seulement ça me plaît parce que c'est mon tempérament, que j'adore Charlie Chaplin, j'adore la comédie italienne, mais je suis convaincu que l'humour donne une distance salutaire par rapport aux événements dramatiques. Et je me dis, si mes compatriotes, grâce à Parfum de printemps, ils arrivent à sourire de ces choses-là, quand on arrive à sourire des choses, eh bien, on est moins accablé. Du coup, on peut peut-être les dépasser, on peut les... C'est pour ça que Parfum de printemps est, en fait, une fable, mais aussi une comédie, une façon... Même si tout dans le film est vrai, il n'y a pas du tout de choses exagéré, c'est vraiment ce qui s'est passé, mais avec le recul de l'humour que j'apprécie tellement dans les grandes comédies italiennes de la grande époque, comme Pain et chocolat, ou pour traiter du racisme, on voit un pauvre gars en Suisse qui arrive à se teindre les cheveux en blond pour se faire passer par Suisse alors qu'il est italien du sud, sicilien, et en fait dans tout ce film, on rit alors qu'on devrait pleurer. Moi c'est le cinéma qui me fascine, moi, c'est celui de Charlie Chaplin, celui... Là pour terminer la comparaison avec Charlie Chaplin, je suis fasciné par une phrase du grand historien de l'art Élie Faure qui dit, ce qui est merveilleux avec Charlie Chaplin, c'est que dans la même pirouette, il peut exprimer à la fois la joie d'être au monde et la douleur d'exister. Ça, c'est génial.
On va dire dans Alpha Wind, c'est Fikir Boguidir petit. Dans Un été à la Goulette, c'est l'adolescence. Et dans Parfum de printemps, c'est l'adulte qui libère en pensant avoir tout connu, tout connaître surtout, qui se retrouve devant le néant presque.
Oui, mais c'est tout à fait exact. J'ai conçu ça un peu comme une trilogie, parce que, comme disait François Truffaut, à qui on disait, après les fameuses années où le cinéma devait absolument être politique, là, après Z de Costa Gavras et Yves Boisset, tout ça, l'attentat, les Luigi Fayard d'Ilchéri, on le disait, mais François Truffaut, pourquoi vous ne parlez pas des ouvriers? Il disait, parce que moi, je parle de ce que je connais, et c'est plus honnête. Et moi-même, le premier film est inspiré directement de mon enfance, dans la ville arabe, quartier Alfaouin de Tunis. Un été à la Goulette est inspiré par mon adolescence, quand j'allais en été me baigner dans cette plage cosmopolite et plurireligieuse où toutes les religions vivaient ensemble. Et celui-ci, je me suis dit, après l'enfance et l'adolescence, c'est l'âge adulte. En même temps, je me suis dit, ça va être l'entrée dans l'âge adulte sur fond de dictature et de révolution. C'est-à-dire que ce n'est pas une entrée de l'âge adulte qui est impersonnelle, qui n'est pas liée aux événements. Je voulais le lier à un événement historique quand même qui est un grand tournant dans l'histoire de la Tunisie et de toute la région, qui est le printemps arabe. Et en même temps, je me suis dit, les adultes qu'il va rencontrer sont déjà des adultes blasés, même malins, ou parfois même des petits filous. Mon héros est un diplômé chômeur qui débarque dans son lointain village, et c'est un candide moderne. Il croit que tout le monde est plein de bonté. Et lui, prend comme métier installateur d'antennes paraboliques sur les toits. C'est pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est que, d'ailleurs, le film, au début, s'appelait L'Ange des Paraboles. L'Ange des Paraboles, parce que pour moi, c'était quelqu'un qui était un intermédiaire. Il est tout le temps sur les terrasses, comme était déjà mon petit garçon de Alpha Wind. Donc, petit garçon d'Alpha Wind qui a grandi. Là, il est sur les terrasses, il est un intermédiaire entre les images qui tombent du ciel, hein, même les messages, je ne dis pas divins, mais les messages qui arrivent du ciel, et la population qui les reçoit. Et lui, il ne regarde jamais la télévision. Mais j'ai choisi surtout ce métier d'installateur d'antennes paraboliques, parce que quand on installe des paraboles sur les toits, on va chez les riches, on va chez les pauvres, on va chez les partisans du régime, on va chez les opposants islamistes clandestins, et du coup, en le suivant, on a un panorama absolument complet de la société. Et je me suis dit, je ne vais pas faire quelqu'un qui est déjà adulte, je vais faire l'entrée dans l'âge adulte, mais toutes les initiations qu'il faut pour devenir adulte. C'est pour ça que lui, dans chaque groupe qui rentre, il est maltraité, parce que à cause de sa naïveté et de sa maladresse, il fait des bêtises et du coup, il reçoit même une tannée dans chaque groupe et il voit aussi bien le marché des pauvres où il y a de la contrebande qu'il peut découvrir un endroit beaucoup plus raffiné comme Sidi Bou Saïd qui est un village d'artistes et de poètes qui montre aussi que la Tunisie, il y a toute une civilisation qui est là depuis Carthage et tout l'apport des Andalous, de tous ceux qui sont venus là. Lui, il fait le tour de tout ça et en réalité, il ne devient adulte qu'à la fin. Il comprend une chose qui est essentielle, d'ailleurs c'est ce qu'il y a dans tous mes films, c'est que nous sommes dans une société au Maghreb, qui en réalité est beaucoup plus tolérante qu'on ne croit, mais à condition qu'on n'affiche pas les choses. C'est-à-dire qu'en réalité, les sociétés qui acceptent les transgressions à la règle règles, les déviations, mais à condition qu'on ne les affiche pas, qu'on ne soit pas provocateur. Je ne sais pas si tu te souviens que dans mon premier film Alpha Wing, il y avait une scène que j'ai vécue enfant et qui était très visible de ça, c'est que le cordonnier qui lui aimait bien boire de l'alcool de figue, la fameuse bourra, c'est un personnage très sympathique dans le film, et un jour il doit chanter devant une assemblée parce qu'il y a une fête, on voit son copain le coiffeur prendre de l'eau de vie de figue et la verser dans une bouteille de sirop pour la toux, sur lequel écrit Vix Vaporub. J'ai vraiment vécu cette scène. Et lui, il dit à toute assemblée, messieurs, avant de chanter, je suis obligé de boire du sirop pour la toux. Comme il a de l'humour, il dit, un ordre du docteur, virgule, là, lui pardonne. Et ce qui est génial, et ça je l'ai vécu, c'est qu'en réalité, en face, il y a une tolérance profonde. Ils disent, tiens, s'il dit que c'est du sirop pour la toux, en fait, c'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça serait de boire de l'alcool en cachette et d'aller à la mosquée. Non, moi j'appellerais ça de l'élégance. Parce que, étant donné qu'il est devant une assemblée de non-buveurs, il fait le geste de mettre ça dans un sirop pour la toux pour montrer qu'il les respecte. Et ce qui est génial, c'est qu'en face, on dit, dès le moment où il a pris l'initiative de mettre ça dans une bouteille de sirop pour la toux, ça veut dire qu'il respecte nos convictions et nos croyances. Donc, s'il nous respecte, eh bien, que chaque humain a sa faiblesse, lui, sa faiblesse, c'est l'alcool, eh bien, dès le moment où il dit que c'est du sirop pour la toux, eh bien, messieurs, c'est du sirop pour la toux qu'ils boivent. Et ça, c'est génial. Ça, on peut pas le savoir si on est étranger à cette société. Parce que si on arrive de l'extérieur, vous aurez toujours la version officielle. On vous dira, vous buvez de l'alcool? Ah ben non, jamais, on boit pas d'alcool. Tandis que si on vit dedans, comme j'ai la chance d'être, et qu'on a une vision intérieure intime, on peut dire, attendez, c'est beaucoup plus nuancé que vous ne pensez. Dans le film Parfum de printemps, il comprend tardivement cela, parce qu'il va être séduit par une très belle femme. Bon, moi j'aime beaucoup les belles femmes. Mes films sont toujours pleins de beaux paysages et de belles femmes. Je suis attiré par la beauté, vraiment. Qui ne le serait pas? Et en fait, il comprend que même s'il a été séduit par cette belle divorcée, il a fait l'erreur d'en parler. Et du coup, il se fait maltraiter par elle. Puis il nie absolument tout, parce qu'il ne faut pas l'afficher, les choses. Vous apercevez qu'à la fin du film, eh ben Zizou, qui est le héros du film, en fait, le titre du film devait être Zizou, mais on m'a dit qu'en France, Zizou, c'est le surnom donné à Zidane. Zizou, on m'a dit, tout le monde va croire que c'est un documentaire sur le football. Et du coup, on m'a dit, trouve un autre titre. Et là, j'ai trouvé Parfum de printemps, parce que j'aimais bien, c'est le printemps arabe. Et dans le film, mon héros, donc, il s'appelle Zizou, à la fin du film, il devient enfin un peu plus malin. Il va volontairement trafiquer l'antenne parabolique pour qu'on vienne le chercher pour réparer, pour pouvoir libérer celle dont il est tombé amoureux. Et c'est un conte aussi, hein, c'est pas... Moi, je fais pas des films qui sont des discours politiques ennuyeux. Je veux que le spectateur ait du plaisir à mes films, que le film soit un conte qui vous transporte, qui vous donne du plaisir, mais que derrière, tout le contexte politique soit vrai, exact. Et la façon dont fonctionne notre société, qui est si peu connue et qui est malheureusement accablée de plus en plus par des clichés très très forts sur le société arabo-musulmane, je veux que mes films donnent la vérité, parce que de mon modeste point de vue, j'ai la capacité de le faire.
En même temps, la naïveté du héros, on va dire, c'est le filigrane du film qui a d'énormes sous-entendus. Je pense à la montée du religieux, la corruption, et en même temps, quelque part, un pouvoir vacillant.
Ah oui, c'était le cas avant la révolution du jasmin. C'était vraiment une société, un pouvoir plus que vacillant, parce qu'il y avait eu entre-temps les révélations de Wikileaks, qui dans une partie concernait aussi la Tunisie, y compris d'ailleurs les révélations des services secrets américains qui disaient que le pouvoir était à bout de souffle et que les Tunisiens n'en pouvaient plus du fait, surtout la seconde épouse de Ben Ali, Leïla Ben Ali, née Trabelsi, parce que je dois avouer que Ben Ali n'était pas un dictateur sanguinaire, c'était pas quelqu'un comme au Proche-Orient qui pouvait avoir des escadrons de la mort ou gazer tout un village comme c'est arrivé au Proche-Orient. Mais c'était un policier, c'était un flic. C'est-à-dire qu'il était victime de sa formation, il avait été formé à la sécurité militaire, donc il avait fliqué tout le pays. Tout le monde était surveillé, espionné, sous écoute, et on avait même peur de parler dans les cafés pour ne pas ensuite être embarqué. Donc... Quand on regarde cette période qui précédait la Révolution, Ben Ali, pour être franc, avec sa première épouse, était la fille d'un général, général Kefi. C'est une femme très modeste, pas du tout avide. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, malgré l'absence des libertés d'expression, l'économie marchait bien, parce que les hommes d'affaires, ils avaient coudé franche pour travailler, le PNB a monté, les gens bossaient. Malheureusement, comme dans un mauvais mélodrame, Ben Ali avait une maîtresse, donc Leïla, qui l'a persuadé de divorcer de la première et de l'épouser, parce que lui, il avait déjà eu trois filles de la première, et comme il était assez macho, il voulait un garçon. La seconde épouse, la maîtresse, lui a fait croire qu'elle était enceinte d'un garçon, ce qui était faux. Elle a triché sur l'échographie, comme on dit. Et du coup, il a divorcé de la première, il a épousé la seconde, mais là, c'était la catastrophe pour nous, Tunisiens, parce que la seconde avait 9 frères, tous plus avides et affamés les uns que les autres, qui ont mis le pays sous coupe réglée, c'est-à-dire ils ont mis la main sur les richesses du pays, à tel point que les hommes d'affaires étaient rackettés, qu'ils ne voulaient plus investir. Quand on arrive à cette période-là, il y a beaucoup de corruption, et il y a un ras-le-bol de la population, y compris des hommes d'affaires, y compris pas seulement le peuple. une augmentation du chômage, si bien que, comme chacun sait, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est ce jeune diplômé chômeur qui était dans la ville de Sidi Bouzid, là, le Mohamed Bouazizi, qui, faute de trouver du travail malgré ses diplômes, vendait des légumes au marché sur une petite charrette qu'on lui a confisquée. Il paraît que la policière municipale l'a même giflé. Et lui, du coup, de désespoir, est allé s'immoler par le feu. Il s'est arrosé d'essence. Ça a été l'étincelle parce que, du coup, à cause de l'état de corruption où était le pays, tout le monde est sorti dans la rue et spécialement aussi les jeunes. Sur les réseaux sociaux, les jeunes blogueurs ont joué un rôle énorme, cette révolution du jasmin, dont on n'ira jamais assez qu'elle a été faite par un peuple éduqué. Parce que c'est la différence, c'est que le président Bourguiba, le premier président du pays, qui était le leader de l'indépendance, lui, c'était un moderniste et un féministe. Donc d'une part, il a accordé à la femme tunisienne, il a fait des lois pour... Jusqu'à aujourd'hui, la femme tunisienne, elle a le plus de droits que puissent avoir les femmes dans tout le monde arabe et musulman. Il a interdit la polygamie, il a interdit la répudiation, il a supprimé l'obligation du port du voile, il a fait une législation pour le divorce totalement en faveur de la femme. Si une femme divorce, elle garde l'appartement, elle garde les enfants, le mari paye une pension alimentaire. Et s'il la paye pas, il va en prison, ce qui c'est le cas, il va en prison. Et surtout, Bourguiba n'aimait pas beaucoup les militaires parce qu'il avait à l'ouest un colonel, le colonel Boumediene. Très vite, ensuite, il a eu le colonel Kadhafi en bas, il avait le colonel Nasser en Égypte. Et du coup, à l'indépendance du pays, il a donné, je crois, 0,3% à la défense. C'est pour ça que l'armée tunisienne est très faible, elle ne peut pas faire des coups d'État. Et par contre, 55% à l'éducation. Si bien que la révolution tunisienne, elle a ceci de particulier du jasmin, que c'est pas un pays où il y a une énorme masse d'analphabètes. Il n'y a plus aucun alphabète en Tunisie. Comme certains pays arabes où il y a beaucoup d'analphabètes et puis une classe très riche et puis un fossé entre les deux. Non, Bourguiba a éduqué tout le monde et fait vraiment une classe moyenne. Peut-être pour ça que la révolution des jasmins est une révolution qui, après une période de corruption et de népotisme, a été faite par des gens éduqués, éclairés, et avec un très grand rôle des jeunes et des réseaux sociaux. Et peut-être aussi, je pense que c'est peut-être pour cette raison que la Tunisie... C'est un pays vraiment de très vieille civilisation, hein, parce qu'après tout, en Tunisie, la Tunisie a fait la première constitution du monde arabe avant l'arrivée de la France, avant le protectorat français, 30 ans avant, en 1851, ça s'appelait le pacte fondamental. La Tunisie a aboli l'esclavage avant l'Europe. Et surtout, c'est un pays de l'islam modéré, parce que moi, mon grand-père était libraire dans les souks de Tunis, à deux pas de la grande mosquée Zitouna, la mosquée de l'Olivier, qui était à l'époque une grande université islamique, mais l'islam éclairé. Et du coup, d'ailleurs, quand ils ont reçu une délégation, la tendance de l'islam qui s'appelle le wahhabisme, qui est la pire des tendances de l'islam, puisque c'est celle qui est pratiquée en Arabie Saoudite, au Qatar, où la femme n'a aucun droit, elle ne peut pas conduire une voiture, elle ne peut pas aller faire son marché toute seule, elle est éternelle mineure, elle dépend même d'un petit garçon au mal. L'université de Zitouna, elle a chassé les wahhabites, elle dit « mais c'est quoi cet islam que vous nous amenez ? C'est pas ça l'islam ?» Et donc, il y a toute cette tradition en Tunisie, qui est aussi, je crois, depuis Carthage au moins, une tradition du consensus, c'est-à-dire une culture du consensus, c'est-à-dire qu'on va s'entendre. C'est pour ça la goulette, on s'entend, même si on est différent, de religion différente, à tel point que une autre première qui a eu lieu en Tunisie, c'est qu'après les élections libres qui ont eu lieu en 2011, le parti qui a eu une légère majorité aux premières élections libres, c'était le parti islamiste. Pourquoi ? Parce que comme c'était eux les victimes principales de Ben Ali, ils étaient arrêtés, ils étaient torturés, ils avaient un capital de sympathie. Et les gens ont dit c'est des victimes, on a voté pour eux. Mais comme c'était pas du tout des... Économiquement, ils étaient vraiment nuls, quoi. Leur gestion était catastrophique. Le chômage a augmenté, le niveau de vie pris en flambé. Ils ont commis l'erreur, à un moment, de dire « on va revenir sur la liberté de la femme qu'a accordé Bourguiba, parce que la liberté de la femme, c'est la débauche, enfin, toutes les idées hyper conservatrices qui sont les leurs, parce que c'est des partis islamo-conservateurs. » Et ils ont proposé que dans la future constitution, on dise que la femme n'est plus l'égale de l'homme, mais qu'elle est complémentaire de l'homme. C'est la grosse erreur qu'ils ont fait dans ce pays-là, la Tunisie, parce que là, il fallait voir les Amazones tunisiennes sortir dans la rue, occuper la rue, faire des sit-ins de plusieurs mois devant l'Assemblée nationale pour dire pas de régression, on ne revient pas en arrière. Et puis c'est encore une femme. Moi, je suis convaincu jusqu'à aujourd'hui que ce sont les femmes qui vont faire triompher la Tunisie de toutes les épreuves qu'elle subit en ce moment. Le chômage qui a encore augmenté à cause des attentats qui ont sinistré le tourisme. Encore une fois, avant qu'ils puissent sécuriser les plages. Et ça, malheureusement, les médias ici en France font beaucoup de scoops. Malheureusement, toujours sur le catastrophisme, les gens ne viennent plus, quoi. Le chômage augmente. C'est une femme aussi qui a sauvé la mise, puisque c'est Ouidad Bouchamaoui qui est la présidente du MEDEF tunisien, qui est le syndicat des patrons, qui s'appelle l'UTICA. C'est elle qui a pris l'initiative d'aller voir... Bon, c'est comme si en France, la patronne du MEDEF allait voir le patron de la CGT, tu vois. Et ça lie avec lui. Mais en Tunisie, les choses ne se passent pas comme ailleurs, hein. Et du coup, elle est allée le voir, elle lui a dit, entre nous, syndicat des patrons, et vous, syndicat des ouvriers, on peut bloquer le pays. Donc ils ont dit aux islamistes qui avaient une gestion catastrophique, écoutez, là, on vous demande de partir pacifiquement. Et d'ailleurs, pour ça, ils sont alliés à deux autres organisations, donc le syndicat des patrons, le syndicat des ouvriers, mais aussi la Ligue des droits de l'homme, qu'on voit bien dans mon film, comment elle était réprimée sous Ben Ali, et aussi l'ordre des avocats. Et ils ont obtenu des islamistes tunisiens qui quittent pacifiquement le pouvoir, ce qui est aussi une première. Je pense que les islamistes tunisiens, et aussi, comme juste avant, il y avait eu la destitution des islamistes égyptiens par le général Sisi, mais que ça s'est fait de façon assez sanglante, puisqu'on a tiré sur les manifestants pro-islamistes et tout ça. Et nous, encore une fois, ce petit pays modéré de la Tunisie de 11 millions d'habitants, on a obtenu le départ pacifique, sans une goutte de sang. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que la Tunisie, et principalement ce quatuor d'organisations, a obtenu le dernier prix Nobel de la paix en décembre, parce qu'ils ont réussi une transition pacifique, sans aucune violence, entre les islamistes donc, qui ont quitté le pouvoir, organisé des élections libres où cette fois-ci ils n'ont plus la majorité des voix, ce qui indique que le peuple tunisien est intelligent et s'adapte très vite. Il a vu que ça ne fonctionnait pas et donc c'est un parti séculier maintenant qui a la majorité, Nida Tunis. Et c'est grâce, encore une fois, aux femmes qui ont réagi. Et donc toute cette corruption qu'on voit dans mon film au départ, finalement, elle aboutit à des bouleversements, mais il y a eu évidemment, parce que malheureusement les islamistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont ouvert les prisons et sorti tous les djihadistes qui étaient dedans, y compris ceux qui avaient participé à des attentats en Afghanistan pour tuer le commandant Massoud et tout, en disant plus de prison après Ben Ali. Et malheureusement pour nous, ces gens lâchés dans la nature, ils ont fait même des assassinats politiques, ils ont tué des leaders de la gauche. Et tout ça, les Tunisiens, ils révulsent à la violence. Donc tout ça, ça a fait qu'ils ont vraiment perdu beaucoup de crédit à cause de ça. C'est pas eux qui l'ont fait, mais ils ont ouvert les prisons. Et donc, le peuple s'est adapté en disant, bon, avec beaucoup de pragmatisme, bon, maintenant, on change, on vote pour autre chose. Et ça, je suis très fier de mon pays pour ça, parce que je suis moi-même fils de ce pays, donc je suis pour la modération, pour le dialogue, pour justement cette espèce de culture du consensus qui date au moins depuis Carthage, hein, depuis les Phéniciens. Les Phéniciens étaient les plus grands commerçants de la Méditerranée. Ils avaient des comptoirs en Espagne, en Sicile, en Grèce, un peu partout. Et c'est vrai que si on veut commercer, il faut être ouvert aux autres. Et les Tunisiens sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'ouverture vers autrui. Ils n'ont pas peur des apports extérieurs. Au contraire, ils les synthétisent, ils les adoptent, ils les tunisifient. Et moi, je viens de ce peuple-là. Voilà. Et j'espère que mes films reflètent un petit peu cette spécificité tunisienne, cette tolérance, cette modération et ce sourire aussi, parce que les Tunisiens sont des Méditerranéens qui aiment bien aussi blaguer, rigoler. Et pour ça que souvent on compare mes films à Pagnol en disant « Ah, mais ce que tu fais est assez pagnolesque », mais ça, j'ai pas de mal.
En tant que réalisateur, créateur de films, que le film qu'on réalise ne soit pas sûr d'être montré, ça fait pas quelque part marronner tout ce travail fait peut-être, pas pour rien, mais juste à côté? Et en même temps, quand on parlait des femmes, Alpha Win, les femmes sont le au pôle centre. Central, la mère d'abord et puis les femmes après.
Ah oui, absolument. Oui, non, mais je suis très fasciné justement par cet univers des femmes qui sont supposées être infériorisées par la société et comment le génie particulier des femmes tunisiennes font qu'elles vont dépasser ce statut d'infériorisation qu'on leur a donné au départ et en faire une force. Et c'est vrai que c'est très douloureux, en tout cas pour moi, de faire tout cet effort de montrer la vérité de ma société, mais de la montrer aussi avec plaisir, avec de partager ça. Moi, mon plus grand plaisir, c'est quand mes films passent, par exemple en France ou ailleurs, c'est d'aller à la fin de la séance du film, de rentrer dans le noir, je me colle à l'écran et j'attends que la lumière s'allume. Et quand je vois l'expression de bonheur qu'il y a sur les visages des spectateurs après avoir vu Alpha Win, Un été à la Goulette, et maintenant, Parfum de printemps, mais ça, c'est la plus belle récompense, c'est de se dire on a pu donner de la connaissance, de la joie, de la bonne humeur,
Alain Cavalier fait pareil.
Ah oui, ah bah oui, mais ça c'est extraordinaire de voir. Moi j'ai réussi à donner du bonheur aux gens, j'ai réussi à faire ça, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que le cinéma peut tout, hein. Il peut donner de la connaissance certainement, de la joie, de l'émotion, du bonheur. Et c'est pour ça que c'est une souffrance quand les films n'arrivent pas, malgré tous les efforts qu'on a mis, arrivent à leur public. Bon, sur ce film-là, j'ai eu moins de chance que sur mes films précédents, parce qu'Alpha Win a été vraiment très largement diffusé, il est resté très longtemps en France, c'était un film culte à un moment. Un été à la Goulette a très bien marché aussi. Celui-ci, j'ai eu des soucis au niveau de la production, disons, sans rentrer dans trop de détails. Maintenant, malheureusement, le système français qui donne des subventions aux films, il a un côté qui est le meilleur au monde, hein, le système perfectionné au monde de soutien au cinéma, c'est en France. Et nous, on rêve d'ailleurs, et moi, je ne fais pas beaucoup de films aussi, parce qu'entre les films, je suis surtout militant pour l'installation de structures de développement du cinéma, à la fois en Tunisie et en Afrique. Et donc, pendant tout ce temps-là, je suis un militant bénévole, mais j'étais coordinateur de toutes les associations de cinéma tunisien nées avant et après la Révolution, jusqu'à obtenir en 2011, après la Révolution, la création d'un Centre National du Cinéma, d'un CNCI en Tunisie. Et on espère maintenant en arriver à faire des lois comme en France ou comme au Maroc, où une partie des recettes de l'audiovisuel, que ce soit une partie des recettes des salles, une partie des recettes publicitaires des télévisions ou des fournisseurs d'Internet, viennent soutenir le cinéma. Comme ça, ce n'est plus l'État ou les caisses de l'État qui financent le cinéma, comme dans beaucoup de pays, mais c'est l'audiovisuel qui finance l'audiovisuel, ce qui est, à mon avis, le meilleur des trucs. Donc moi, comme j'étais très occupé par ça, quand je fais un film, je ne suis pas très bon gestionnaire, à vrai dire, et je m'aperçois que le système français, il a le côté pervers de faire que le film devient du coup une espèce de dossier administratif, et par exemple, le producteur, il va se hâter de le sortir très vite, parce qu'une fois qu'il a sorti le film, même si c'est seulement une après-midi dans un cinéma, il peut percevoir la dernière tranche de ceci, de cela, il peut avoir les paiements des télévisions, et là, c'était moins le cas pour mes films précédents, si bien que là, j'ai dû vraiment lutter pour que la sortie ne soit pas bâclée. Bon, je rends hommage à mon distributeur, là, un petit distributeur qui s'appelle Zelig, du nom d'un film de Woody Allen que j'adore. Mais c'est vrai que c'est un petit distributeur qui n'a pas accès au grand circuit, n'a pas accès à UGC, à Gaumont, à MK2 et tout ça. Il doit lutter pour les passer dans des salles d'arrêt d'essai. Là, par exemple, je suis malheureux de venir à Lyon, de faire l'ouverture de ce festival Cinéma du Sud. On m'a demandé d'être le parrain de ce festival cette année, de voir l'affiche de Cinéma du Sud qui reproduit mon film Raffin de printemps, et le film ne sort pas à Lyon. Donc je me dis, c'est vraiment dommage. Tout ce bon bouche à oreille, s'il y avait une seule salle d'arrêt d'essai à Lyon qui le prenne, ça serait bien pour les Français et pour les Maghrébins qui sont là, de voir cette vision à la fois de justesse, j'espère, ou de vérité, mais aussi de bonheur ou de joie de vivre. Mais c'est devenu maintenant tellement complexe, les accès aux salles. Il sort beaucoup plus de films qu'avant. De mon temps, il sortait 6 films nouveaux par semaine. Donc on pouvait durer, attendre le bouche à oreille. Là, à Paris, il sort parfois 17 à 20 nouveaux films. Avec le numérique, ça s'est multiplié. Donc ça se bouscule au portillon, on n'arrive pas à accéder aux salles. Et en plus, le bouche à oreille n'a pas le temps de se faire, parce que s'il n'y a pas de spectateurs la première semaine, il y a quelqu'un qui attend derrière, vous devez vite partir. J'espère, comme j'ai vu que, entre guillemets, j'ai confiance en mon produit, comme on dit, j'ai vu l'enthousiasme que déclenche Parfum de printemps, donc c'est même pas exagéré. Je me dis, c'est vraiment, c'est du gâchis, quoi, que de venir à Lyon, d'avoir une avant-première aussi belle qu'hier avec ce public heureux, enthousiaste et tout ça, et qu'après, il n'y a pas de suivi, tu vois, alors que c'est un film qui ferait du bien aussi à la fois à la société française et aux Maghrébins qui sont là. J'espère que cet appel, grâce à votre radio, sera entendu, et qu'il y a une des salles, parce qu'en plus, Lyon, c'est connu pour, vraiment, ça manque pas. C'est vraiment la ville de la naissance du cinéma, c'est la ville aussi où il y a un maximum de salles où le cinéma est un art.
Une question toute bête, Féric Beguédière fait une apparition dans le film, et dans le film, il est méchant. On peut savoir pourquoi ?
En fait, ça c'est un hasard, hein. C'est parce que moi je ne devais pas jouer ce rôle du petit agent immobilier trouillard qui vient des règles 2 Malabar envoyé par la famille au pouvoir pour essayer de convaincre la femme d'un opposant de vendre sa belle villa, sa belle maison de Sidi Bou Saïd. C'est vrai que tout le monde me dit que je devrais être acteur, mais c'était Serge Danet, le défunt Serge Danet, qui écrivait dans les Cahiers du cinéma et dans Libération. Il me disait, mais Ferid, tu as vraiment une présence, tu as beaucoup d'empathie avec le public, tu devrais jouer. Et là, pour ce film Partant de printemps, je devais être un acteur très populaire à la télévision, dans des feuilletons, qui m'a dit, mais j'adore tellement tes films, Alpha Wine et La Goulette, dans Parfum de printemps, je veux jouer un rôle gratuitement, sans être payé. Et puis le jour où on devait faire la scène, je crois qu'il s'est souvenu que c'était gratuit. Et donc, du coup, il n'est pas venu. Et comme il n'est pas venu, l'équipe m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bon, ben, je vais le jouer moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la chéchia rouge sur ma tête et j'ai joué le rôle de l'agent immobilier trouillard. Bon, ben, je trouve que c'est. Après tout, moi, je suis admiratif de Woody Allen, de Groucho Marx et de Charlie Chaplin. Alors, pourquoi ne pas jouer aussi dans mes films?
Le prochain, c'est Parfum d'été, pour conclure.
Ah ben je sais pas, parce que comme je vous l'ai dit, comme je fais pas des films pour faire carrière, je me dis, le prochain film, c'est quand je ressentirai de nouveau que ce film est nécessaire. Nécessaire à l'humanité, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a trop de manipulations, quoi. Il y a des propagandes et des contre-propagandes partout. Et les malheureux téléspectateurs, ils voient que des scoops, là. Je vois l'autre fois Envoyé spécial qui a passé un film sur 4 jeunes qui ont prétendu faire un émirat dans un petit village en Tunisie, Sejnan. Mais ça, c'est pas un micro-phénomène qui a même pas duré une semaine. Et voilà, quand on voit ça, et puis une dame qui dit « Ah, ma fille, elle est partie rejoindre les djihadistes », on a l'impression que tout le pays est comme ça. Alors que c'est les mêmes 4 gus qu'on voit après dans une réunion salafiste à Kairouan, c'est les mêmes. Et du coup, l'amour du scoop qu'ont les journalistes font que, là, par exemple, M6, qui repasse de nouveau un truc, mais vieux de 4 ans, où il y avait quelques jeunes aussi salafistes, mais les gens, là, c'est dramatique, parce qu'à la veille de la saison touristique, en voyant ces trucs qu'on met par sensationnalisme, les gens ont l'impression que c'est un pays qui est à feu et à sang, alors que moi, je vis là-bas, je vous assure qu'il n'y a aucune marque d'avoir peur. Et maintenant, c'est vrai que les attentats ont lieu partout, mais maintenant, les plages sont sécurisées, tout le monde se baigne tranquille, et je pense que mon film, à mon avis, ferait du bien à tout le monde de voir, vu de l'intérieur, comment est cette société. Donc, je pense que le prochain, je le ferai quand il y aura de nouveau une accumulation telle d'idées fausses, de préjugés, de clichés, de stéréotypes. Je vais dire, bon, il y en a marre, je prends ma caméra et je vais quand même vous montrer ce que c'est quand on vit dedans. Quoi. Voilà.
Ferid Bouguedir, ben, je vous remercie, puis on se donne rendez-vous sur la croisette.
Oui, bah, tout à fait. On va découvrir les films des autres. Parce que moi, je suis un cinéphile. Je ne suis pas seulement un cinéaste. Et mon amour du cinéma vient de la cinéphilie des ciné-clubs. Donc, ce n'est pas demain que j'arrêterai de voir des films. Que j'arrête d'en faire. Ça répond malheureusement à des manques financiers ou à un manque, comme je vous l'ai dit, de nécessité de ma part quand il y a des choses urgentes à dire. Mais de voir des beaux films, moi, le cinéma, c'est ma vie, quoi, à tout point de vue. J'étais critique de cinéma, professeur de cinéma, directeur de festival de cinéma. J'ai créé le Fonds panafricain du cinéma et de l'audiovisuel. J'ai eu la chance d'être membre du jury à Cannes deux fois, une fois du long métrage, une fois du court métrage. Membre du jury à Berlin, où mon film était à la Goulette était passé en compétition officielle. Membre du jury à Venise. Bon, je suis un homme comblé. En tout cas, mon amour du cinéma est comblé. Mon amour de tourner, ça coûte plus cher, mais quand je vois le bonheur qu'ont les gens à avoir par fin de printemps, c'est ça ma plus grande satisfaction.
Merci.
Merci à vous.
Nous venons d'écouter Farid Bouguedir, qui nous a parlé de son film Parfum de printemps, qu'il était venu présenter lors des journées africaines à Lyon. Générique.